Alors, nous allons revenir ici sur quelques réflexions, quelques pistes qui ne sont pas bien entendu exhaustives pour l'analyse du texte Une histoire. Art, architecture, design, des années 1980 à nos jours, Musée national d'art moderne. Tout d'abord, en ce qui concerne la macrostructure, nous pouvons réfléchir à la disposition du texte sur la page. On voit que le titre en très grand caractère et en gras ressort. Il est aussi en caractère majuscule, une histoire. Alors justement, ce terme ressort au plan graphique et attire l'attention du lecteur. On peut lui donner une double interprétation, une histoire un peu comme une narration, je vais vous raconter une histoire, mais on peut aussi le voir finalement dans l'espace chronologique, temporel, et envisager justement cette histoire comme faisant référence au moment important de la grande histoire. En dessous du titre, j'ai trois lignes de sous-titres, là aussi en caractère majuscule, un caractère, une police un peu plus petite que le titre. Les deux premières lignes sont en gras. Au niveau du contenu de ce titre, on voit une succession de trois noms, art, architecture, design, qui ne sont pas précédés de l'article. On envisage donc que ces termes sont pris de manière globale, générale. Des années 1980 à nos jours, et ensuite Musée national d'art moderne. Il est intéressant de réfléchir à la fois à la disposition, mais aussi au contenu que renvoient ces trois lignes. Alors le titre, et puis ces trois lignes où on a, si on regarde la première, art, architecture, design, on imagine que ça renvoie au référent, au sujet qui est abordé dans ce texte. La deuxième ligne du sous-titre permet de contextualiser sur le plan temporel, puisqu'on nous dit que finalement cet objet dont on s'occupe est situé de manière précise au plan chronologique et nous partons des années 80 pour arriver au jour d'aujourd'hui. La troisième ligne situe cet objet que nous allons rencontrer au plan de l'espace et il nous situe au Musée national d'art moderne, précisé en bas de page, Centre Pompidou. Alors, ces éléments de l'espace nous donnent tout de même aussi une indication sur le destinataire du contenu. À aucun moment il n'est précisé que nous nous trouvons à Paris. On imagine en revanche que si cette précision est absente, c'est parce que le document s'adresse à un visiteur qui, lui, sera cette fois nécessairement à l'intérieur du musée. On n'a pas affaire ici à un fascicule qui est déjà disponible alors que je fais la file à l'extérieur du musée, mais on nous parle d'une exposition spécifique qui se situe à un certain étage du musée et ce n'est qu'à partir du moment où je serai à l'intérieur du musée, mais pas seulement à l'intérieur au sens des espaces communs, mais je serai déjà sur le lieu auquel renvoie l'histoire, que je pourrai me procurer ce fascicule. Donc il est clair qu'à ce moment-là, le visiteur est contextualisé dans l'espace et on n'a pas besoin de cette précision. supplémentaire. C'est en quelque sorte un implicite, mais un implicite pas lié au choix d'un terme, mais lié à la situation. Si nous continuons avec la macrostructure, on voit que le corps du texte, lui, est réparti de manière très claire. On a une très bonne visibilité, lisibilité. Les caractères sont relativement grands et le texte est réparti sur deux colonnes, elles aussi très nettement séparées. La partie finale, comme nous l'avons déjà dit, renvoie en gras au centre Pompidou. Voilà donc pour la macrostructure. Si on réfléchit maintenant un peu aux phrases, et là je vais me placer dans la partie, disons, développement du texte, on peut remarquer que certaines d'entre elles sont particulièrement longue. Je pense notamment à la deuxième phrase qui commence à la ligne 5 avec un parcours comportant plus de 420 œuvres, près de 180 artistes, architectes et designers, originaires de plus de 55 pays. Cet accrochage est composé de sections thématiques qui sont autant de clés de lecture pour aborder la diversité des productions artistiques de cette période. Alors cette phrase à elle seule couvre pratiquement un tiers de la première colonne. Toutes les phrases ne sont pas bien entendu aussi longues, mais c'est tout de même une tendance de ce texte de ne pas présenter vraiment de phrases brèves. Si on reprend ensuite la phrase qui commence à 1989, on voit qu'avant d'arriver à un point, on doit aller à l'avant-dernière ligne du texte. Donc globalement, le texte sur la première colonne prévoit trois phrases. Alors, on peut s'interroger justement sur ces phrases longues. Par rapport au destinataire, est-ce que ces phrases longues donnent une impression de lourdeur ou rendent la compréhension difficile? Mais je dirais plutôt non. Si je reviens justement sur cette phrase 2, qu'est-ce que je remarque? Et je peux aussi me poser la question, pourquoi une telle longueur? Par quoi se caractérise finalement cette phrase 2? Un parcours comportant 420 œuvres, 180 artistes, 55 pays. On voit que finalement, sur le plan du contenu, il y a un souci de la part de l'auteur de précision, de détail, et on a donc un auteur qui se rend tout à fait crédible, qui donne des informations précises. Il y a un souci, je vais dire, de détails dans le contenu du texte. Justement, si nous nous plaçons maintenant par rapport à des questions touchant l'énonciation, si nous mettons en relation énonciateur et destinataire, eh bien on remarque qu'à la différence d'autres textes, la présence de l'auteur est très peu marquée, ou du moins, ce n'est en tout cas pas un trait qui émerge immédiatement. Regardez par exemple les pronoms sujets. Est-ce que nous avons des pronoms sujets? Peut-être pas, on a bien entendu des sujets, et regardons ces sujets, c'est cette présentation des collections, un parcours comportant, je pourrais continuer encore assez longtemps, mais on voit bien que on est axé, le texte est axé au niveau des sujets sur la troisième personne. Et donc, plus que sur l'énonciateur, c'est sur le référent qu'est centré ce texte. Dans d'autres analyses, nous avons vu combien le destinataire, à travers là aussi des pronoms, pouvait être impliqué. Réfléchissez ici aussi à la place du destinataire. Donc, on a affaire finalement à la description d'un événement de manière détaillée, avec des chiffres qui sont assez nombreux pour un texte aussi bref. On a 420 pour les œuvres, 180 pour les artistes, 55 pour les pays. On a des dates comme 1989, 1990. Nous savons que les chiffres confèrent à un texte une idée de précision. On n'est pas dans l'approximatif, on est dans la date exacte, dans le nombre de pays exact, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un autre élément que vous pouvez absolument faire intervenir dans votre analyse. Réfléchissons maintenant aussi aux choix lexicaux. Alors, rien qu'avec les termes que nous avons mis en évidence quand on s'est intéressé au lexique, on voit que on a le filon du dynamisme de l'art, bien entendu, hein, parce que même si on a peu de termes purement spécifiques au monde de l'art, on avait accrochage, par exemple, aussi l'idée du performatif dans ce cas-ci peut s'apparenter à un lexique de spécialité, mais à part ces termes relativement rares, on voit en revanche que se dégagent des champs lexicaux et des champs sémantiques qui vont à la fois vers le dynamisme. On a par exemple l'effervescence, émerger, performatif aussi, qui donne l'idée justement de ressortir, et vers l'idée aussi du renouveau. Cette exposition, finalement, se caractérise par son côté innovant. C'est quelque chose qui, jusqu'à présent, n'avait pas encore été fait. Hein, donc, on voit justement l'adjectif nouveau, ou dans sa forme du féminin, nouvelle, apparaître un certain nombre de fois. Hein, si nous prenons rien que la première colonne, nous avons 1989, une nouvelle ère. Quelques lignes plus bas, on nous parle de la nouvelle Chine, d'une nouvelle Chine. À la dernière ligne, de nouveaux territoires. On pourrait continuer encore comme ça dans la colonne suivante, où on aura, par exemple, de nouvelles figures. Les nouvelles virtualités, de nouveaux modes participatifs. On donc voit bien que c'est cette idée d'innovation, de nouveau, qui est mis en avant. Alors évidemment, à travers cet adjectif nouveau, nouvelle, c'est absolument clair, mais on a d'autres termes qui donnent justement l'idée d'innover par rapport à ce qui a été fait précédemment, mais par exemple le choix des verbes apparaître à l'avant-dernière ligne. Hein, la Biennale d'art contemporain apparaisse, ça n'existait pas avant, ça voit le jour. On a le verbe émerger à la première ligne de la deuxième colonne. d'autres termes encore que vous pourrez relever dans le texte. Ils ne sont pas mis en évidence, mais je pense plus ou moins au milieu de la deuxième colonne, on a revisité. On reprend quelque chose qui existait déjà, certes, mais on l'adapte. On a le terme modernité. On a juste en dessous réinventé, donc ce préfixe ré qui marque aussi justement l'idée de l'innovation. Et donc, on comprend très bien que l'auteur insiste sur ce côté finalement attractif, qui dit aux visiteurs, notre musée a fait quelque chose de nouveau, on vous propose quelque chose de différent. D'accord ? Donc voilà un autre élément, il me semble, que vous pouvez signaler sur le plan du lexique. J'ajouterai encore par rapport à quelques figures de style. Par exemple, nous avions une forme d'énumération. Quand on parle des professions, je suis là dans la deuxième colonne. Les années 1990 voient l'émergence de nouvelles figures hybrides. L'artiste en historien, en artiste, en producteur, en documentariste. Alors, si d'un côté on a l'aspect, disons, stylistique, figure de style, de l'énumération, de l'autre côté, ça conforte encore l'idée du souci d'exhaustivité et du souci de précision de l'auteur. Donc il nous dit qu'on a des figures hybrides, de nouvelles figures hybrides. Bon, on pouvait s'arrêter là, donner un exemple, l'artiste en historien. Mais non, il va plus loin, l'artiste en historien, mais aussi en archiviste, en producteur, en documentariste. Et donc, on voit que par rapport à son lecteur, il veut être absolument crédible, il veut être précis, il y a un souci d'attention pour apporter justement une information par rapport au référent qui est, je le rappelle tout de même, le cœur de cet article, des références précises. De la même manière, ces références précises, ben on les a vues avec les dates, mais on pourrait aussi justement en tenir compte par rapport aux éléments, aux événements historiques. On voit bien qu'il y a, et cela apparaît déjà dès le titre, enfin en particulier dès l'intertitre, les trois moments clés de ce texte, c'est art, architecture, design, de quoi je vous parle, la situation au plan temporel, on l'a dit tout à l'heure, mais cette situation temporelle, on voit aussi qu'elle va apparaître, elle va être présente dans le contenu du texte, et donc les dates, mais aussi l'évocation d'événements historiques importants, la chute du mur de Berlin, l'idée d'une nouvelle Chine. Cette précision sur le plan historique, qui est quelque part déjà annoncée dans le titre, il est question d'une histoire, nous l'avons également aussi au plan de la localisation dans l'espace. Pas seulement précision temporelle, mais aussi précision spatiale. On nous parle de la Chine, on nous parle de Berlin. Je voudrais encore ajouter, et justement par rapport à cet espace, et je reviens là un peu en arrière sur les questions du lexique, on a dans ce texte un certain nombre d'éléments qui renvoient justement à la sphère du visuel. N'oublions pas que nous sommes dans un musée, on va assister à une exposition et on a des termes par exemple, comme à la ligne 4, le panorama, l'idée d'accrochage, c'est aussi des choses que l'on va voir. Il y a encore d'autres éléments, par exemple au niveau verbal, l'idée d'apparaître donne aussi l'idée justement de voir. Donc ce filon est également un élément, me semble-t-il, la question du visuel qui peut être souligné dans le texte. Alors ici, si on réfléchit aussi aux questions de l'implicite, voyez peut-être justement comment l'implicite culturel opère ici par rapport à une connaissance, à un arrière-plan probablement historique et géographique, mais d'une histoire relativement proche. On est dans une histoire absolument contemporaine. Et donc, réfléchissez aussi quand vous essayez d'identifier le destinataire auquel s'adresse ce texte, de voir un peu à quel profil de personne on parle. On a dit que sur le plan purement pratique, c'est un destinataire qui sera sur le lieu de l'exposition. Réfléchissez si d'après vous, entrer pleinement dans ce texte mérite qu'on ait des connaissances culturelles en partage d'un certain niveau. Voilà, il y aurait d'autres choses à dire, d'autres pistes à explorer, mais je crois que, enfin je pense par exemple à la question des temps verbaux, on serait dans une autre approche aussi, mais je crois que nous avons déjà ici un certain nombre d'éléments de réflexion, le plan macrostructure, le plan énonciation, la question lexicale, l'identification du destinataire et l'éventuelle question aussi des implicites sont déjà différents points auxquels on peut réfléchir. Attention, ils ne sont pas nécessairement dissociés les uns des autres. Hein. Question de l'implicite et question du destinataire peuvent être évidemment très liés. Donc, ce sont des chemins que vous pouvez parcourir pour votre analyse.